Bien sûr, c'est notre édition spéciale qui continue consacrée à cette canicule qui accable la France. On va avoir 72 départements en vigilance rouge. Ça concerne 60 millions de Français. Si vous faites le compte, ça fait 90% de la population. Il y a une donnée qui était intéressante aujourd'hui, c'est-à-dire que 94 millions d'habitants en Europe aujourd'hui devaient connaître des températures supérieures à 35 degrés. 94 millions d'habitants en Europe, 60 millions de Français. Donc ça veut dire que les deux tiers des Européens concernés par la canicule, ce sont les Français. Marc, et on est dans des données, et on va dire malheureusement, historique concernant cette canicule.
C'est historique, c'est inédit. D'ailleurs, cette journée donc de mercredi devient la plus chaude jamais enregistrée. Hein. Celle d'hier était déjà très chaude avec une moyenne de 29,9 sur l'ensemble de la journée, sur 30 stations réparties à l'échelle du territoire. Bon, aujourd'hui, on passe légèrement au-dessus de cette valeur. Donc, ce mercredi devient la journée la plus chaude jamais enregistrée avec des températures qui dépassent actuellement localement les 44 degrés. Hein. C'est le cas dans le Maine-et-Loire à Saumur, c'est le cas à Osgore dans le département des Landes, et les premiers 40 degrés de l'année ont été atteints dans la capitale. C'est une première au mois de juin depuis le début des relevés au parc Montsouris à Paris, et ça remonte à 1872. Jamais il n'avait fait 40 degrés à Paris.
Et ça va continuer. Et enfin, attendez, avant qu'on dise ça va continuer, on va avoir le problème de la nuit aussi dans tous les départements.
Oui, la nuit à venir s'annonce vraiment très délicate, hein, puisque les températures au moment le plus frais de la nuit devraient par endroit rester supérieures, largement supérieures à 25 degrés. Hein. Il est prévu demain matin à Nantes, au moment le plus frais de la nuit, 28 degrés, et à Paris, une température de 27 degrés au moment le plus frais de la nuit. Donc, lorsque vous avez 40 degrés, alors déjà, pour la capitale, on est quand même à 6 journées consécutives à plus de 35 degrés. Et là, en réalité, on rentre dans le dur de la canicule. 40 degrés aujourd'hui, 40, 41, 42 prévus demain, 39 vendredi, encore 36, 37 samedi avec des nuits à plus de 25 degrés. Donc là vraiment, on rentre dans le dur. Et en effet, les fortes chaleurs, très fortes chaleurs, s'étendent vers le nord-est. C'est la raison pour laquelle toute la région Grand Est est elle aussi placée en vigilance rouge, parce que là aussi, les températures vont localement approcher les 38 à 40 degrés, sans doute jusqu'à dimanche, voire jusqu'en début de semaine prochaine.
Et puis, il y a les risques incendies qui est au plus haut. Justement, on va en parler avec Jérémy Normand, qui est dans l'Aveyron pour BFM TV. Jérémy, qui est avec des pompiers, justement, qui sont en pleine intervention en forêt, puisque depuis 72 heures, ils sont en train de contenir un incendie, hein, Jérémy.
Oui, la menace de l'incendie qui reste très présente ici dans ces forêts aveyronnaises où nous sommes avec les pompiers de l'Aveyron, mais pas seulement, puisqu'ils ont reçu des renforts venus des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, également du Gard et de l'Hérault. Au total, ce sont 138 soldats du feu, des hommes et des femmes qui sont mobilisés sur ces terrains très escarpés, ce qui rend leur intervention particulièrement périlleuse. Mais aujourd'hui, le feu est désormais fixé. Les dernières reconnaissances effectuées par les drones ont montré qu'il n'y avait pas de reprise de feu. Et donc, eh bien, ces pompiers, on le voit, sont en train de noyer, c'est comme ça qu'on le dit, de noyer le terrain qui, vous le voyez ici sur ces images de Sébastien Savoie, a été dévoré par les flammes en partie et reste extrêmement sec, extrêmement inflammable. Et donc, Sébastien, qui est ici sur le pied de guerre depuis tôt ce matin, eh bien, asperge comme ça d'eau le sol pour éviter tout départ de feu, pour éviter aussi les sautes de feu, parce qu'ici, à cause du terrain, il pourrait très bien y avoir une barrière ici de végétation qui empêcherait le feu, mais le feu, à cause du vent ou à cause du terrain, pourrait sauter comme ça et aller de l'autre côté. Et donc, eh bien, avec cette façon de faire, ils évitent la propagation des flammes, ils évitent surtout cette reprise du feu. 35 hectares qui sont partis en fumée depuis les 48 dernières heures, mais désormais le feu est fixé grâce notamment hier à l'intervention d'hélicoptères bombardiers d'eau, de Dash et d'avions Canadair venus de Nîmes. Donc vous le voyez, c'est la solidarité entre les pompiers de différents départements qui jouent à plein ici pour lutter contre les flammes avec ce feu aveyronnais qui est aujourd'hui fixé.
Ah, Jérémy Normand avec Sébastien Savoie dans l'Aveyron. On n'était pas au bord un peu de la surchauffe pour le gouvernement, là, critiqué de toutes parts par les oppositions. Alexis Cuvillier, la ministre de l'écologie, qu'avez-vous fait ? Manque de préparation ? On l'a entendu, cette musique. Alors, ils ont mis en place une cellule de crise, mais ils sont conscients d'avoir quelques ratés au gouvernement ou pas?
Nous allons bien sûr en parler là, sur ce plateau. Il y a des critiques de long terme sur la gestion par les gouvernements précédents, de réponses qui auraient pu être imaginées. Alors, elles sont très diverses, ces critiques. Elles viennent aussi bien des écologistes de la gauche que du Rassemblement national. Vous savez que Marine Le Pen parle beaucoup de son plan national de climatisation. Et beaucoup à droite estiment que la France n'est pas assez équipée en climatiseur. En revanche, sur la gestion de court terme, c'est vrai qu'il y a aussi des reproches sur la façon dont cet épisode a pu être anticipé. On le voit dans l'opinion, c'est par exemple le cas dans notre sondage ELAB. On voit que ça, c'est une critique qui arrive dans l'opinion. C'est aussi un constat qui est partagé par certains dans la classe politique. Du côté de la réponse gouvernementale, elle a été marquée, symbolisée par la mobilisation du Premier ministre, du gouvernement sur des cellules interministérielles de crise. Il s'en tient une d'ailleurs ce soir au niveau des directeurs de cabinet cette fois, mais vous savez que le Premier ministre en a présidé une en personne hier matin à la place Beauvau, de la même façon qu'il l'avait déjà fait pendant le week-end. La ministre de la Transition écologique est parfois pointée du doigt. Elle n'a pas été la
Madame Monique Barbu.
Elle n'a pas été la plus mise en avant ces derniers jours. Vous savez que c'est beaucoup, par exemple, Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, et c'est d'ailleurs assez normal vu les conséquences sur les organismes de cet épisode, qui s'est exprimé. Elle a néanmoins répondu, Monique Barbu, à plusieurs questions cet après-midi au Sénat à l'occasion de la question des questions au gouvernement.
Du coup, est-ce que on envisage au gouvernement de ne pas prendre de vacances ou de se dire il y a une urgence, restons sur le pont, parce que là, petit à petit, on va s'approcher de la fin de la session parlementaire, enfin de tous les travaux politiques, quoi, en fait.
Ça, c'est une information qui est tombée dans l'après-midi. On sait que le Premier ministre a exprimé ce matin en Conseil des ministres une forme d'alerte en disant que la crise et les crises liées aux canicules n'étaient pas forcément terminées, que eh bien le gouvernement pouvait peut-être rester sur le pont une partie de l'été. C'est une façon de responsabiliser peut-être tout le monde. C'est aussi un message, bien sûr, ne soyons pas dupes, à l'égard de l'opinion, puisqu'on sait que cette période suscite un certain nombre d'inquiétudes, que la question des vacances gouvernementales, notamment lorsqu'il y a ce type de contexte, c'est toujours une question politiquement un peu sensible. Mais le Premier ministre a donc, en effet, laissé envisager à son gouvernement la possibilité que cet été soit un été de crise, et qu'avec un enchaînement de crises comme cela, la possibilité de prendre de longues vacances pour les ministres puisse être limitée.
D'autant que Monique Barbu, que vous citiez, la ministre de la Transition écologique, ce matin chez des confrères, disait qu'on était parti pour une canicule longue. Écoutez.
On sait que la semaine prochaine, normalement, on devrait connaître une pause relative, mais effectivement, Météo France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient effectivement nous amener jusqu'au 14 juillet.
C'est vrai ou pas, Marc?
Non. Non, en
Madame
réalité,
la ministre, faut qu'elle vérifie ses données. Alors,
parce que je travaille aussi étroitement avec Météo France et que ce matin, alors il y avait encore des doutes, c'est vrai. Hier, il y avait le modèle européen qui lui voyait bien les températures baisser en début de semaine prochaine, quand le modèle américain lui voyait encore la France en surchauffe la semaine prochaine. Et ce matin, les deux modèles vont dans le même sens. La plupart des modèles d'ailleurs, c'est-à-dire une baisse des températures. Alors on part de très très haut, 42, 43, 44, on va retomber sur des températures, on va dire estivales, avec beaucoup moins d'excès. Mais très clairement, ensuite, sur la semaine suivante, déjà, c'est beaucoup trop loin pour être aussi affirmatif. Et puis, surtout, là, dans ce qu'on sait faire en termes de prévision météo, il n'y a pas de température extrême, de chaleur extrême qui est envisagée d'ici le 14 juillet. Donc, très clairement, là, je ne sais pas où elle a eu ces informations.
Barbu, il faudrait qu'elle revoie ces données dans tous les cas.
Vous savez que le Premier ministre, hier, à l'occasion de la cellule interministérielle de crise, évoquait des scénarios potentiels que Météo France avait présentés.
C'est ce qu'on disait hier, qu'en effet, il y avait encore des incertitudes. C'était les informations d'hier, c'est-à-dire voilà, des modèles qui voyaient
la laquelle
chaud.
S'est avancée de cette façon.
Là, on est 24 heures plus tard, mais pour le coup, les modèles évoluent toutes les heures et les prévisions évoluent assez rapidement.
Alors justement, les prévisions prévision évolue. Dans tous les cas, la chaleur, elle est là. Et qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises dans ces cas-là? On stoppe les activités, les chantiers en plein air. On met en place des congés exceptionnels. Qu'est-ce qu'on fait?
On s'adapte. Effectivement, on commence plus tôt, on finit plus tôt. Il y a parfois des chantiers qui sont annulés. Il y a parfois des événements qui sont annulés. Mais effectivement, les entreprises et dans les entreprises, les femmes et les hommes souffrent beaucoup dans ce moment-là, que ce soit dans le bâtiment ou les travaux publics, mais que ce soit dans l'agriculture, mais que ce soit dans n'importe quel type d'entreprise, parce que finalement, il y a des écoles qui sont fermées, il y a des sujets d'augmentation d'électricité aussi qui peuvent impacter les entreprises. Donc, en fait, aujourd'hui, la crise... La canicule, c'est une vraie crise aussi économique que vivent les petites et moyennes entreprises, malheureusement. Et quand je vous écoutais sur le plateau, je me disais que finalement, aujourd'hui, on devrait, nous, les patrons de PME, écouter la météo de la même manière que on écoute peut-être les prévisions de la Banque de France, parce que finalement, ça a un impact direct, ouais. Ça vient taper directement sur le chiffre d'affaires de nos entreprises et donc sur la bonne santé de nos entreprises et de nos collaborateurs.
Écoutez ce que disait le ministre du Travail, madame la sénatrice Vogel, et puis on va continuer la discussion, monsieur Farandou.
La bonne idée, c'est pas fixer une température, c'est d'avoir des mesures adaptées. C'est ce qu'on fait par ce système jaune-orange-rouge, avec les préfets qui veulent prendre des arrêtés pour justement suspendre les chantiers entre 13h et 21h. Voilà, c'est des mesures concrètes d'adaptation. Je pense que les riverains comprendront bien que peut-être, effectivement, leur sommeil sera peut-être un peu dérangé à partir de 6h du matin. Mais il faut concilier la protection des salariés, bien évidemment, avec la capacité que le pays fonctionne. On va pas mettre le pays à l'arrêt parce qu'il fait 30 degrés, ça ne marche pas.
Justement, à Paris, Arthur Descudé, qui était avec nous, les commerçants s'adaptent, ils adaptent leurs horaires, quoi, en fait.
Oui, ils adaptent leurs horaires. On est dans cette boucherie du 18e arrondissement de Paris à Jules Geoffrin. Et même, regardez, eh bien, ce panneau qui a été mis en place, eh bien, la boucherie sera fermée demain et également lundi prochain en raison des fortes chaleurs. On est avec Fénor. Merci de répondre à nos questions ce soir. Vous travaillez ici. Vous n'aviez pas le choix, finalement. C'était une évidence de fermer la boucherie demain.
Bah, en fait, le problème, c'est que même si, avec les chaleurs, nous, on peut travailler parce qu'on a les machines qui sont réfrigérées, ça permet d'avoir une température intérieure modérée et agréable, mais le problème, c'est la marchandise, c'est la première à souffrir des fortes chaleurs qu'il y a en ce moment. Et ça va changer l'aspect, le visuel, et on peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc nous, demain spécifiquement, on n'est ouvert que la demi-journée. Donc travailler, être ouvert une demi-journée pour abîmer de la marchandise et pour en plus souffrir nous-mêmes de la chaleur...
Oui, parce qu'il faut le dire, vous n'avez pas la clim à l'intérieur. Il fait 41 degrés à l'extérieur. Il fait encore plus chaud à l'intérieur. C'est quasiment impossible de travailler dans ces conditions-là, Fénor.
C'est ça. Bah, en fait, nous, on a de la chance parce que nos machines, même avec la chaleur, elles suivent le coup. Mais par contre, la clim, ça a été la première à souffrir ces trois derniers jours de la température. Et là, on peut pas se permettre d'être ouvert demain avec ces températures-là. Même aujourd'hui, c'est juste, mais sinon, c'est pas viable.
Eh bien, on vous souhaite bon courage. Merci Fénor d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, je rappelle donc cette boucherie du 18e arrondissement de Paris qui a donc pris cette décision de fermer son magasin demain et lundi en raison des fortes chaleurs. Il fait encore 41 degrés ici à Paris. Petite information, cette nuit, il fera encore 33 degrés à minuit. Ça va être donc encore une nuit très compliquée pour les Parisiens ce soir.
Arthur Descudé et Louis Santerre dans le 18e arrondissement. Madame la sénatrice Vogel, votre groupe fait une proposition de congé climatique, mais est-ce qu'il faut un congé et passer par la loi ou plutôt faire confiance aux entreprises et aux commerçants?
Alors, d'abord, permettez-moi, pardon, pour qu'on aborde bien ce débat. Moi, il y a deux termes qui ont été employés depuis le début de cette discussion qui me dérangent parce que je pense qu'ils ne nous permettent pas d'aborder de manière réelle ce à quoi on est confronté. C'est le terme d'épisode que vous avez employé et le terme d'historique. On n'est pas devant un épisode et on n'est pas devant quelque chose d'historique en vrai. C'est pas un épisode parce que ça va se poursuivre. C'est le monde qu'on a construit qui nous a amené aujourd'hui à cette situation qu'on ne peut pas enrayer comme ça du jour au lendemain. Donc des canicules, on va continuer à en avoir. C'est pas épisodique et c'est pas historique. C'est historique pour aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on considère que c'est historique. Mais la semaine prochaine, ce sera peut-être plus le cas. Et moi, je fais le pari que aujourd'hui, le 24 juin, ne sera pas inscrit dans les livres d'histoire parce que très prochainement, il y aura des jours plus chauds et qu'on est en vérité. Et c'est ça que les gens doivent bien comprendre. En train de vivre l'été le plus frais du reste de notre vie. Et pourquoi? Parce que à la fois on n'a pas pris les mesures pour réduire le dérèglement climatique et qu'en plus on n'a pas pris les mesures pour s'adapter au dérèglement climatique qu'on ne peut plus supprimer. Et donc c'est ça qu'il faut faire. à la fois s'adapter, parce qu'il y a une partie qu'on pourra plus, qui n'est plus réversible, et donc il faut s'adapter aux chaleurs plus fortes, aux risques d'inondation, il faut isoler les logements, il faut investir. Ça demande 35, 37 milliards d'investissements publics par an, hein, si on veut vraiment faire ça, et s'adapter. Et s'adapter, le congé climatique fait partie des adaptations nécessaires dans le monde du travail. C'est pas la seule, mais ça fait partie des adaptations nécessaires.
Pourquoi absolument un congé climatique? C'est ça que on a du mal à
comprendre. C'est que ça permet aux salariés de pouvoir ne pas aller travailler les moments où c'est difficile, soit parce que ces conditions de travail ne le permettent pas, soit parce que on a l'école qui est fermée et donc on doit s'occuper des enfants parce que l'école ferme et que donc on doit prendre un congé et que ce soit rémunéré. Mais c'est pas le congé climatique qui va mettre fin à la canicule ni à la crise climatique.
Vous avez très bien accueilli dans l'opinion. Hein. 6 Français sur 10 favorables à l'instauration de ce climat, de ce congé climatique dans notre sondage. Alors,
est-ce que les PME y sont favorables ou pas?
Non, quand une solution c'est de travailler moins, c'est jamais une bonne solution. Je suis totalement d'accord avec le constat. Il faut s'adapter, il faut investir. Et je pense qu'on a, au lieu d'essayer de colmater en permanence comme l'État le fait ces jours-ci, il y a un vrai plan d'investissement à faire sur les infrastructures, sur le bâti, etc., etc. Croire que on va régler le problème dans les entreprises en donnant un congé climatique aux collaborateurs, c'est juste ne pas comprendre la réalité des entreprises, parce que déjà il y a aucun rapport entre le commerçant qu'on vient de voir à la télévision et l'agriculteur ou la personne qui du bâtiment. Donc déjà ça ne s'applique pas de la même manière à tout le monde. Et puis surtout, déjà je vous l'ai dit tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui elles s'adaptent beaucoup. Si on remet
et elles prennent soin de leurs salariés. C'est ce que vous dites.
Mais bien sûr. Non, mais la question, c'est on est toute la journée avec nos collaborateurs, les femmes, les hommes avec lesquels on travaille. Et donc, on est les premiers à en souffrir avec eux. Donc, on s'adapte au maximum et on fait tout pour faire en sorte que chacun puisse passer ce genre d'épisode. Et je suis d'accord avec vous, ce terme d'épisode, il est mal choisi, pour le mieux possible.
Si je peux peut-être clarifier, parce qu'il y a peut-être une incompréhension, la proposition, bon, déjà, elle fonctionne dans certains pays, en Espagne, elle est appliquée.
Juste en Espagne.
Voilà.
Oui, mais en Espagne, c'est pas pour la même raison.
Aujourd'hui, l'Espagne est peut-être le seul pays en Europe qui est volontariste sur le plan des mesures sociales en matière écologique. Mais bref, c'est que ce congé soit pris en charge par l'État. Donc, il ne coûte pas aux entreprises. Et en fait, on ne dit pas qu'on va résoudre le problème.
Mais ce serait 5 jours en plus qui s'ajouteraient ou, c'est
oui,
ça
ce serait 5 jours qu'on peut prendre pour simplement raison climatique.
On les a à disposition.
Il peut y avoir, je suis parfaitement d'accord, si on est agriculteur ou si on est commerçant et qu'on travaille dans un magasin climatisé, on n'est pas dans les mêmes conditions de travail. Mais si on a des enfants et que l'école ne peut pas les accueillir et que l'école est fermée, on peut se retrouver dans une situation où, du fait de la crise climatique, on ait besoin pouvoir se libérer.
Mais pour ça, on n'a pas besoin d'une loi. On le gère déjà très bien dans les entreprises. Effectivement, une collaboratrice qui va venir...
Vous avez besoin d'une loi pour que vos salariés puissent être... vos salariés puissent être indemnisés s'ils prennent un congé pour des raisons climatiques.
Je vais vous dire, en tant qu'entrepreneur, j'ai jamais besoin d'une loi. Je préfère qu'on me dégage d'un certain nombre de lois et que je puisse pouvoir travailler.
Oui, mais vos salariés, besoin.
Oui, mais si vos salariés vous appellent en disant, écoutez, il fait 40 degrés, j'ai pas de transport en commun, c'est chaud. En plus, mes enfants ne sont pas à l'école.
C'est comme ça que ça se passe dans les entreprises. Regardez. En France, globalement, on a quand même un vrai problème de cohésion nationale. Où est-ce que ça se passe bien aujourd'hui en France? Dans les entreprises, dans les petites entreprises, parce qu'il y a des petits collectifs qui savent se parler, qui savent régler les problèmes ensemble. Et donc, on n'a pas besoin de loi pour régler les problèmes. On les règle ensemble, on se parle, on se met autour d'une table et on trouve des solutions ensemble.
Dans le cas de figure que vous décrivez, aucun patron ne demandera à cet employé de justifier cette absence.
Mais ça se discute. Si la personne est complètement bloquée, on va discuter.
Monsieur, c'est ça le principe du droit du travail, c'est de donner des droits.
Je sais, on applique le droit du travail dans les entreprises.
Voilà, aux travailleurs et aux travailleuses, et de permettre que l'État les fasse respecter. Donc j'entends que vous, peut-être dans votre entreprise, vous êtes très sympathique avec vos salariés et que s'ils ne peuvent pas... Non mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que l'inscrire, en faire un droit, ça permet que ce soit financé par l'État et que ce soit un droit et que donc ça ne nécessite pas de négocier avec son employeur qui pourrait vous dire non. Voilà, enfin c'est le principe d'un droit social.
Mais je vous dis, la solution qui passe par systématiquement se dire on va moins travailler est une solution de court terme, est une solution où petit à petit notre tombe et petit à petit notre pays va de plus en plus mal on est aujourd'hui, on a des constats qui sont quand même évidents sur ce sujet-là.
Mais les solutions qui passent par on va toujours plus travailler, pour l'instant c'est ce qu'on a fait et là ça nous amène dans le mur, donc peut-être on pourrait essayer de travailler un peu moins.
Différemment, pas un peu moins, différemment.
Et différemment aussi, bien sûr, et différemment aussi.
Ça veut dire quoi travailler un peu moins?
C'est, qu'on comprenne. Bah, c'est le grand débat sur la réduction du temps de travail qui est lié de manière indirecte à notre modèle économique.
Je crois du côté écologie, vous voulez 32 heures, c'est ça, être sur une base de 32 heures. Payer combien?
Payer comme payer 35.
Payer 35.
Oui.
32 payer 35.
Mais il y a des entreprises qui le font.
Je vous donne les clés de mon entreprise et vous allez voir comment vous allez pouvoir gérer cette situation, c'est impossible.
Bah il y a des entreprises qui le font, monsieur, et qui en fait ont pas de perte de productivité.
J'en connais quelques-unes en général,
c'est effectivement des secteurs très précis. Il y a des entreprises qui le font qui n'ont pas de perte, mais pourquoi l'imposer à toutes? Celles qui le font, tant mieux, et celles qui ne peuvent pas le faire ou qui ne veulent pas le faire,
c'est un grand débat.
C'est comme le congé. C'est plutôt de laisser de la liberté. Okay, c'est marrant parce que pour un parti qui vient de l'écologie, c'était vraiment pas de règles, ne pas de contraintes, etc. Vous êtes venu finalement dans le législatif d'imposer des règles à tout le monde.
Alors l'écologie a toujours été un projet politique qui considère que sans normes, le capitalisme nous mène à la catastrophe.
Là, ils vous disent laissez-nous de la liberté.
Non, mais bien sûr, c'est un grand débat la question de la réduction du temps de travail. Je l'abordais juste là parce que vous faites le lien entre le congé climatique et la réduction du temps de travail.
C'est vous qui en avez parlé, oui.
J'ai parlé du congé climatique.
Et vous avez parlé de la réduction du temps de travail.
Oui, parce que c'est une question au fond de modèle économique. Est-ce qu'on veut toujours travailler plus pour produire plus? C'est ce qu'on essaye depuis un siècle et demi. Ça nous a pas amené, si vous voulez, dans une situation très favorable.
Mais on voit bien que le débat commence et quand il va arriver en pleine campagne présidentielle, ce sont des thèmes qui auront l'occasion d'être pris.
Et je souhaite qu'il arrive dans la campagne
pris.
Parce que c'est effectivement débat de modèle.
Mais on va regarder un pays où il fait largement 40 degrés assez souvent, c'est le Qatar. Souvenez-vous des débats au moment de la Coupe du Monde, de la construction des stades. On va y retrouver Célia Vallée en direct pour BFM TV. Célia, justement, comment fait-on dans un pays où il fait régulièrement plus de 40 degrés ?
Alors, en un mot, pour vous résumer la situation ici, tout tourne autour de la climatisation. Elle est dehors, dedans, partout. Quand elle est à l'intérieur, elle est même dans les ascenseurs. Et surtout, elle est très basse. C'est-à-dire qu'ici, en moyenne dehors, il fait 45 degrés. Et bien, quand on rentre dans un établissement, on passe tout de suite à 20-25 degrés. Donc, c'est assez troublant. Ça fait presque un choc thermique. Mais surtout, ce qui nous a un peu troublé, nous, ici, quand on est arrivé, c'est qu'on a vu des climatisateurs à l'extérieur. Deux exemples à vous donner. Celui du Soukhoakif, c'est un endroit où il y a des restaurants et des boutiques, eh bien, il y a des climatisateurs sur les terrasses à côté des gens qui mangent et qui reçoivent donc de l'air frais à l'extérieur où il fait environ 40 degrés. Un autre exemple à vous donner, c'est celui d'une piste d'athlétisme qui a été construite peu avant la Coupe du Monde de foot, vous en parliez justement, une piste qui est entièrement climatisée, qui est aussi végétalisée. Elle mesure 1,1 km de long et donc les gens peuvent aller courir et marcher sous cette piste sous la climatisation. Pour vous donner un chiffre, la consommation d'électricité liée à la climatisation dans le pays, elle est de 60%. Et puis un autre exemple à vous donner ici pour vous parler un petit peu de la vie au quotidien des Qataris et des habitants, eh bien c'est qu'ici la journée, les rues sont désertes, il fait entre 45 voire même jusqu'à 48 degrés pour les maximales. Donc dans la journée, dans les rues, il n'y a personne, les magasins sont fermés. En revanche, quand le soleil se couche et que la température descend un petit peu, eh bien la vie reprend son cours. Voilà pourquoi aussi les boutiques et les restaurants sont ouverts jusqu'à minuit le soir. Ici, c'est vraiment beaucoup plus vivable le soir qu'en journée.